Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Dans le pays de mes ancêtres, en Dale Carly et dans les romans de Selma Lagerlöf, le monde du merveilleux est peuplé de trolls et de tomte. Le tomte est une petite créature d'une dizaine de centimètres, un gentil lutin avec une longue barbe qui protège les enfants. Il vit dans les campagnes et apporte souvent des cadeaux. Le troll est son double maléfique, laid, cruel, difforme, bête et méchant. Il vit caché dans les grottes. Il déteste la lumière du jour et poursuit inlassablement de ses sarcasmes et odieusetés les innocentes créatures. Le monde fantastique de l'Internet a aussi, on le sait, ses tomteux et ses trolls. Ces derniers qui nous intéressent aujourd'hui vivent cachés derrière des pseudonymes ou des images animées et pratiquent diverses formes de harcèlement en ligne à visée sexiste, raciste ou juste imbécile, ce qui n'est pas incompatible. La France en a découvert l'existence maléfique et organisée lors de l'affaire dite de la Ligue du LOL. Les trolls qui cachaient des personnalités publiques, harcelant en meute des cibles féminines, ont été punis et virés. Une étape a été franchie dans l'horreur avec la tuerie de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a été pensée par son auteur quasiment comme une campagne de trolling d'extrême droite et conçue pour sa viralité sur le net. À la fin, en se rendant à la mosquée, le terroriste s'est filmé en voiture en train d'écouter de la musique et juste avant de sortir de la voiture pour aller dans la mosquée, il a fait une pause et il a dit « Rappelez-vous les gars, abonnez-vous à PewDiePie qui est un personnage virtuel, un troll très puissant aux États-Unis. » Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, trois histoires de trolls donc, un extrémiste américain, un troll normand et une femme qui a rencontré son troll. Ce n'est pas une enquête exhaustive sur le phénomène, ni un échantillon représentatif de ce peuple de l'ombre, mais un récit à la première personne d'Élodie Maillot qui revient des États-Unis et a rencontré pour vous, ici et là, ces trolls et trollés pas très lol, qui nous rappellent que les pires des criminels sont parfois des aimables voisins.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je n'ai jamais été très active sur Twitter, mais j'ai commencé à m'intéresser aux trolls en 2016 parce qu'une pizzeria, dans laquelle je mangeais souvent, a été attaquée par des trolls. Attaquée virtuellement, je veux dire, par ces internautes qui passent beaucoup de temps à agresser des gens qui ne pensent pas comme eux. Carole et James, les patrons de Comet, ce resto plutôt punk, étaient de gauche, proches du directeur de campagne d'Hillary Clinton. Ça se passait à Washington, la capitale des États-Unis où je vivais, et ils ont donc été trollés par des activistes d'extrême droite. Pendant un mois, des centaines de messages postés sur Instagram, Facebook et Twitter les accusait de faire un trafic pédophile dans la pizzeria. Rumeur absurde bien sûr, mais des internautes venaient régulièrement pour vérifier et tout a basculé le 4 décembre 2016 quand ce trolling virtuel a débouché sur une fusillade réelle. Un type a fait des milliers de kilomètres pour venir tirer à l'arme automatique dans la pizzeria. Visiblement, lui, il croyait aux rumeurs des trolls.
Kelly File exclusive tonight on the conspiracy theory that came to be known as Pizzagate.
Megan, as many controversies do these days, it began with a tweet. Someone on Twitter, whose name remains unverified but has several thousand followers, posted that new emails found on Anthony Weiner's computer.
L'affaire fait la une des télés américaines qui la baptise Pizzagate. Le tireur se rend sans résister et il explique aux policiers qu'il voulait sauver des enfants esclaves sexuels et que finalement il n'a rien trouvé dans le resto. Toutes ces rumeurs venaient de trolls de l'alt-right, cette mouvance nationaliste sur laquelle Trump a surfé. Alors j'ai cherché à savoir à quoi ressemblent ces fameux trolls d'extrême droite dans la vraie vie. Et quand je rencontre enfin Nathan, un troll white suprémaciste qui croit en l'inégalité des races, eh bien, il n'est pas du tout du genre skinhead, crâne rasé, non. Nathan porte un pantalon bien coupé, en flanelle gris clair, chic, et avec son polo blanc moulant, il est plutôt avenant, friendly même. Et surtout, il assume tranquillement ses idées néo-nazies et l'activisme numérique de cette nouvelle droite 2.0, décomplexée et plutôt habile sur les réseaux.
I'm in California, so, you know, we're kind of decentralized.
Je vis en Californie. Avec les militants de l'alt-right, cette nouvelle extrême droite, nous sommes éparpillés un peu partout dans le pays. Il n'y a pas de QG, ni de bâtiment défini. On se retrouve autour de nos idées, sur les questions de race et d'identité.
Nathan dit qu'il n'y a pas que les Américains blancs qui se sentent attaqués par le discours sur l'égalité des chances et des races. L'Angleterre, le Canada et la Nouvelle-Zélande aussi. Mais son modèle à lui est français.
And we've actually been greatly inspired by Generation Identitaire, their professionalism.
On est très influencé par le groupe français Génération Identitaire.
You know, in talking about these
things,
they're very uncomfortable.
Ils n'ont pas peur des mots.
And also much more likely to reach people.
Leur démarche est franche et elle est efficace.
Génération Identitaire n'est pas un parti politique, c'est un groupe de jeunes activistes tellement actifs que Twitter et Facebook ont fermé leur compte. Les Américains, eux, ont le premier amendement et donc le droit de tout dire en ligne. Mais pour faire avancer leurs idées, pendant la campagne, les trolls ont détourné un petit personnage marrant. Une grenouille fan de pizza et de jeux vidéo. Et ils en ont fait un mème, un petit dessin qui inonde les réseaux sociaux avant les élections. Avec ses blagues cash et son envie de s'attaquer au politiquement correct, Pépé a soutenu Trump, une grenouille sympa, comme un cheval de Troie rigolo pour répandre des idées nauséabondes qui tapent sur les femmes, les migrants et les latinos.
We've been able to utilize social media and we like to use a lot of satire. We like to make people
laugh. On est très actifs sur les réseaux sociaux. On utilise l'humour. On fait rire les gens pour faire passer nos idées sur la différence entre les races.
However, if you kind of, you know,
il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire et si tu en parles sérieusement, ça ne passe plus. Alors, quand on dit ce qu'on pense en faisant des blagues, on ouvre une fenêtre dans l'esprit des gens. C'est comme ça qu'ils te laissent entrer dans leur tête. Ils se rendent compte de certaines vérités quand tu les fais rire. Le meilleur exemple, c'est le personnage de cette grenouille qui s'appelle Pépé. Qui existe depuis longtemps. Je ne sais pas si vous le connaissez en France. On en a fait un mème, un personnage caricatural. On l'a détourné. À l'origine, il n'était pas du tout de notre bord. Il était même plutôt grungy, un peu sale. On en a fait un personnage d'extrême droite qui fait des blagues avec nos idées sur les réseaux sociaux. Et ça fait rire.
So, I mean, I guess that's not like a joke with a punchline, but there's something there to it that's kind of funny. Is every time Pepe pops up, it's like, you know, there's going to be trouble.
Ce n'est pas exactement des blagues avec des punchlines, mais c'est plus l'attitude de Pepe qui est drôle.
So, yeah.
Dès qu'il arrive, tu sais que ça va causer des problèmes, que ça va déranger. On l'a totalement rallié à notre cause.
Est-ce que Pepe peut avoir la tête de Donald Trump?
Oh, he does. He kind of has like the hair.
Oui, bien sûr, avec sa coupe de cheveux. Pépé est vert en général, mais il y a plein de versions de Pépé, dont un avec la tête de Trump, bien sûr. Tu sais, on est dans une lutte qui se mène sur le terrain culturel et on doit trouver un moyen d'occuper l'espace. Et quand tu occupes l'espace, tu occupes l'esprit des gens, ce à quoi ils pensent.
Et Pépé la grenouille est également utilisée en France pour défendre Marine Le Pen. Alors, quand l'affaire de la Ligue du LOL éclate en France, je repense à Nathan et à ses blagues dérangeantes qui font avancer ses idées. Et j'ai envie de comprendre qui sont ces trolls français, ceux qui ont relayé des blagues douteuses ou trollé les cibles de la Ligue du LOL. Des petits trolls comme VZTK. Il accepte de me donner rendez-vous à Caen. Dans la vraie vie, VZTK s'appelle Guillaume, il est graphiste et fan de jeux vidéo. C'est un petit troll, il a relayé les attaques des membres de la Ligue du LOL pour se marrer, dit-il. Aujourd'hui, il regrette, il me reçoit chez lui et il est très poli, il prend mon manteau et le pose sous le poster d'un groupe de punk. Il a plus de 10 000 followers aujourd'hui, dont Nikos Aliagas, Jérôme Commander ou Anne Romanoff, même s'il assume toujours d'être un troll.
À mes débuts, oui, j'estimais être un troll. Je pense toujours l'être aujourd'hui, mais d'une manière différente. Je cherche à faire rire les gens, ça je vais pas m'en mentir, ça c'est quelque chose qui me plaît. C'est surtout justement dans les lieux de discussion communs, comme Twitter, comme un forum, etc. Il y a une opinion qui est plutôt unanime à propos d'une chose ou d'autre, et il y a quelqu'un qui exprès va aller à l'encontre. Mais pas forcément avec une raison, c'est juste histoire de faire son intéressant, de titiller un peu les gens. Ça peut prendre toute forme, ça peut être aussi bien juste de la taquinerie que de la méchanceté pure et dure, voilà, des montages, des insultes, des choses comme ça, mais vraiment uniquement pour le plaisir d'aller à contre-courant.
Bien avant que l'affaire de la Ligue du LOL n'éclate, Guillaume suivait la plupart de ses membres sur Twitter. Il relayait leurs blagues, il s'en prenait aux mêmes boucs émissaires, notamment des blogueuses comme Daria Marx ou Capucine Pio, et Guillaume discutait même virtuellement avec certains membres de la Ligue du LOL.
À l'époque, j'avais pas forcément l'idée que ça de la Ligue du LOL, mais du coup, ces gens-là J'en suivais certains, des stars de ce réseau. C'était les caïds du réseau. Enfin, je sais pas si c'est le mot approprié, mais quand on arrivait sur ce réseau à l'époque, on avait de grandes chances de tomber quotidiennement sur leurs tweets. Quand on commence sur ce réseau et qu'on commence à interagir avec des gens qu'on du suivi, qu'ont beaucoup de followers, quand ça arrive la première fois, ça y est, on commence à s'intéresser à moi, et pas par n'importe qui, et on voit passer des choses de gens qu'on ne connaît pas. Mais du coup, on peut pas s'empêcher de réagir. Je les suis. Plutôt que de se dire, je m'en fous. Il y avait une blogueuse, je crois qu'elle est blogueuse, qui s'appelle Daria Marx, qui était justement une des cibles de la Ligue du LOD assez fréquente. Donc c'était genre 3 ans après que je me sois inscrit donc sur Twitter. Un jour, elle avait lancé une cagnotte pour voir se payer un scooter pour se déplacer en Paris. Moi, ce que je vois surtout passer, c'est justement des tweets qui relaient son appel au don, mais en se moquant d'elle, en disant voilà, c'est abusé, tu pourrais te payer toi-même ton scooter. Plutôt que de faire de la mendicité, tu pourrais travailler et te le payer toi-même. Moi, je découvre ça, je fais, bah ouais, ils ont raison, c'est carrément aberrant. Et j'y vais aussi de mes commentaires, je l'ai vanné là-dessus. Mais du coup, ce qui est resté, c'est que quand je voyais passer des tweets d'elle, ça m'arrivait de continuer à la vanner, en fait, même si j'avais aucune raison de le faire. Et je me rappelle surtout d'un truc où elle disait... Je propose une IRL, donc une IRL, c'est ça veut dire in real life, c'est-à-dire rencontrer des gens, tout simplement.
Dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, tout ça fait. À tous ceux qui ont proposé de me casser la gueule. Alors, comme à l'époque, je la détestais. Pour moi, c'était un peu la personne qui faisait la mendicité et qui pour se payer un scooter et qui disait n'importe quoi. J'avais répondu, je vais devoir me déplacer. Tu me payes un scooter. Ce à quoi elle me répond, mignon petit troll. Donc, elle avait bien compris que je me foutais de sa gueule. J'ai une amie. Ça l'a beaucoup choqué, elle m'a fait pourquoi elle parce que tu te moquais de son poids, parce qu'elle était dépressive, ça il savait c'est vrai que je savais pas, j'ai fait parce que voilà, j'ai vu passer ça et que j'étais con. C'est juste par pure connerie, puis voilà quoi. Le but du tout humour, en fait. C'est ça qui est un peu problématique aujourd'hui, on a toutes ces histoires de ouais, mais on peut plus rien dire, on peut plus on s'est entraîné, on se dit allez, je vais le faire aussi. Allons-y, on va rigoler, quoi. Quand on n'est pas suivi, on se dit tiens, je vais me faire remarquer, je vais faire pareil. Et quand on est beaucoup suivi, on fait une vanne et on se dit regardez ce que je pense, vous êtes d'accord avec moi, hein. Donc du coup, chacun a ses raisons, mais au final, la finalité est la même. Voilà. En fait, c'est un peu comme dans les cours de récré, quand il y a un gamin qui est pris en grippe par une dizaine d'autres, on veut prouver qu'on n'est pas faible. Twitter, c'est un peu la cour de récré, c'est-à-dire que tout le monde s'en prend à tout le monde, en fait, sans forcément chercher. Moi, des fois aussi, il y a des gens qui s'en prennent à moi, ils m'ont jamais rencontré, ils m'ont jamais vu, ils savent pas qui je suis, quoi. C'est ce que j'ai fait à l'époque, enfin surtout avec elle, mais je l'ai juste fait pour me marrer. C'est horrible à dire, mais ça me divertissait.
Quand l'affaire de la Ligue du LOL est sortie en février, Guillaume a voulu rencontrer Daria Marx, en vrai, in real life, pour s'excuser. Mais elle ne lui a jamais répondu. Elle n'a jamais voulu non plus me parler de ses trolls. Alors, je suis allée rencontrer quelqu'un qui avait pu rencontrer l'un de ses trolls, en vrai.
Je m'appelle Faïsa, je suis journaliste.
Aujourd'hui, Faïsa travaille pour Mediapart, mais avant, elle écrivait au Bondi Blog. Elle a ouvert son compte Twitter en 2009 et elle tweete beaucoup sur...
Sur des thématiques comme... les quartiers populaires, les minorités, les musulmans. Donc, autant dire que voilà, ce sont des sujets pas forcément toujours très consensuels. Donc, en fait, à force de tweeter sur certains sujets, je me suis mise à cultiver des trolls. J'avais ma petite ferme de trolls plus ou moins attitrés. Et pour moi, le paroxysme, ça a été 2015, cette année d'attentats. Cette année-là, j'ai écrit un livre qui raconte des parcours de femmes qui portent le voile, qui ont fait le choix de porter le voile, sachant que en plus, quand on est une femme sur les réseaux sociaux, voilà, avec des origines étrangères visibles, parce que moi j'ai toujours tweeté sous mon vrai nom, sous ma vraie identité. Voilà, je partais avec 3 handicaps, femme d'origine maghrébine et journaliste, donc ça fait beaucoup. « Il y a eu des moments où c'était vraiment agaçant de recevoir des centaines, je sais pas, une centaine de notifications où vous faites insulter, salope, ferme-la, des choses très classiques qui fonctionnent toujours. Donc si t'es pas content, retourne au bled. Sinon l'État islamique t'attend. Je me souviens un troll un jour qui m'a dit que je n'étais pas journaliste mais correspondante de Daesh à Paris. Des choses comme ça, très basiques et très très violentes. Mais bon, après c'est horrible, mais c'est le jeu de ce terrain virtuel où tout le monde arrive et essaie de montrer ses gros bras et essayer d'avoir la meilleure répartie possible. Moi, je l'ai toujours fait un peu kamikaze. Genre, allez, je m'en fous, je vais tweeter ce que j'ai envie de tweeter sur tel ou tel sujet. Il y a un côté, c'est tellement surréaliste et puis c'était tellement voilà répété qu'à un moment, je dis bon, discutons pour de vrai, quoi. Le troll, il monte ses muscles sur Twitter, mais en vrai, est-ce qu'il va assumer de me dire que je suis une islamiste et que je vais rejoindre mes frères terroristes ? Je m'étais toujours dit, à un moment, les trolls, ça peut pas être que des Charles Martel 732 planqués sous pseudo, avec des drapeaux français à tout va, en photo de profil, avec des menaces belliqueuses bien comme il faut. Donc, pour un article, j'ai choisi donc de rencontrer l'un de mes trolls, Crusader, le croisé, comme les croisades, voilà. Et lui était très très virulent sur son compte Twitter, c'était toute la boue qui pouvait peupler les cerveaux de tous ces trolls d'extrême droite. Moi, il me disait mais vous cautionnez le terrorisme, les femmes voilées sont forcées et c'était toujours hyper violent et je lui disais bah enfin arrêtez de me suivre quoi. Il me tutoyait, il m'invectivait très très régulièrement. Il me renvoyait toujours à « Non mais ferme-la, t'as pas à dire ça, va rejoindre Daesh si t'es pas contente ». Enfin, c'était vraiment des trucs, enfin c'était toujours, en gros, t'es une islamiste et c'est purement gratuit. Donc je lui ai envoyé un message, voilà, bonjour, je suis journaliste, bon bah on se connaît, hein, vu que visiblement mon compte Twitter est un peu dans vos obsessions quotidiennes, du coup est-ce que ça vous dit de prendre un café ? Expliquez-moi vos motivations, ce qui vous fait peur dans la vie aussi. Donc il a réfléchi, il m'a dit d'accord, je veux bien vous rencontrer. Moi, je trouvais ça hyper drôle, un peu incongru. J'avais dit à un de mes collègues à l'époque, je lui ai dit, bon, quand même, j'ai rendez-vous au Starbucks. Je lui ai dit, tu veux bien passer quand même, on sait jamais, ça se trouve, c'est un psychopathe, j'ai pas envie d'avoir de problème. Je veux bien me confronter au troll, mais on sait jamais. Et en fait, déjà, ce qui m'avait frappé, ça devait être en octobre, il pleuvait, donc il arrive avec son long parapluie un peu, et puis il marche avec, comme si c'était une canne, avec des gants, un foulard mis comme les riches le mettent. Il était très chic, et puis il a une voix hyper enveloppante et rassurante. Et il était ultra timide. Donc, on arrive au Starbucks. Et lui, en fait, c'était la première fois de sa vie qu'il mettait les pieds dans un Starbucks. Il me dit, bon, ben, je vous laisse commander. Mais vraiment hyper galant. Il m'a ouvert la porte. Un peu old school. Et du coup, là, moi, je me retrouve quand même face à un côté de salle de ambiance. Sur Twitter, il est ordurier, comme pas possible. Il y a un des tweets, il me dit, je sais plus à quel propos, je leur chie dessus et j'ai un très bon transit intestinal. Enfin, un truc complètement scatophile, dégoûtant. Et puis, ben j'ai ce gars, enfin j'ai ce monsieur en face de moi qui est hyper galant. Et donc, on s'assoit, il boit son café. Il est un peu, il me dit, je suis très curieux, je suis impressionnée, je suis contente de vous rencontrer. Je dis, mais on est dans la quatrième dimension quand même. Moi, j'étais vraiment dans le gros cliché. Je voyais le gars un peu paumé qui vit chez sa mère à 52 ans. Et pas du tout, lui, il est agent immobilier, il gagne très bien sa vie, il a une compagne, il a une vie sociale, il est passionné de politique depuis qu'il est petit, il aurait adoré en faire. C'est un ancien adhérent des Républicains qu'il a quitté. Je l'imaginais beaucoup plus bas de plafond. J'imaginais vraiment quelqu'un qui était même pas capable de verbaliser pourquoi il déteste les musulmans. Quand il me dit « je suis mariée avec une femme d'origine marocaine », bon, ma première pensée pas très charitable, ça a été la pauvre. Et puis, après, je me dis « mais elle a tout foiré ». Enfin, à un moment, je veux bien que celui qui n'a jamais vu un musulman ou une personne de culture musulmane de sa vie puisse nourrir des préjugés. Mais qu'ils me disent « j'ai une épouse marocaine », je me suis dit « mais wow, c'est encore pire que ce que je pensais ». Par exemple, sur la burqa, quand il me dit... Le voile intégral. Quand il me dit je suis contre parce que je suis méditerranéen, je suis tactile, et donc pour moi c'est violent qu'on me dise que ces femmes ne sont pas pour moi. Et franchement, il y a des moments où je me suis retrouvée un peu démunie en me disant bon, comment on fait ? Je pense qu'on était restés peut-être une heure et demie ensemble, deux heures. Moi, vraiment, j'avais été très surprise par le fait qu'il soit ultra gentil. Et devant moi, il a vraiment édulcoré toutes ses insultes à mon égard en me disant « Non, mais vous, je vois que vous essayez de comprendre. Non, mais vous faites un travail. » Je dis « Mais pourquoi vous êtes aussi méchant ? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Voilà, il a concédé du bout des lèvres que oui, il pouvait être un peu virulent parfois. Pas de vrai pardon. Après le 13 novembre, il m'avait envoyé un message en me disant « J'espère que vous allez bien, vraiment faites attention à vous ». Et il continuait à m'envoyer des messages très gentils où il prenait de mes nouvelles. Ça, c'était après la vraie rencontre. Et il m'avait dit « j'aimerais bien qu'on se revoie ». C'était pacte de non-agression. Il a continué à m'écrire après de manière tout à fait désintéressée. Il n'y avait pas de choses étranges, c'était toujours courtois. Quand j'ai dit que j'étais embauchée à Mediapart, il m'a envoyé un message très très drôle. Félicitations, je suis très heureux pour vous, même si Mediapart est tout ce que j'exècre. Voilà. Rétrospectivement, je me dis que finalement, si on voyait tous nos trolls un par un, peut-être qu'on arriverait à quelque chose. Et ça. On peut pas non plus transformer le loup en agneau en une rencontre. Rencontrer mon troll, ou l'un de mes trolls, ça m'a juste plutôt confortée dans ce que je pensais sur c'est trop facile de se dire que ce sont des pauvres types derrière leur ordinateur qui s'ennuient. Je pense que c'est beaucoup plus conscient. Que ce sont des gens qui, voilà, je veux pas dire qu'ils ont un agenda politique, mais ce sont des gens quand même qui veulent impulser leurs idées dans la société. Eux, voilà, ils veulent influencer le débat dans leur sens.
C'était Histoire de Troll et de LOL, un reportage d'Elodie Maillot réalisé par Anne-Laure Chanel. Coup de chapeau d'ailleurs à Anne-Laure Chanel. Merci Antoine Lachan, à Rémi Dibowski-Douat, à Nino, à Guillaume et à Faïsa. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Zoé Marie Roulier, notre nouvelle stagiaire. I hide my doubts all the
day. The streets are all I know. They are not wanted. But I could not see. Shine a light in my window. Don't mean to cause any doubt. But what makes you so sure? It's not magic.
Don't mean to come.